Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nous sommes en l'an 6, avant le Covid. Les humoristes Trip and Tyler imaginaient ce que donnerait une vidéoconférence dans la vraie vie, avec plusieurs invités qui se retrouveraient autour de la même table.
Hey Paul, can you hear me?
I can't hear you.
I can hear you. Can you hear me?
Hey guys.
Hey Tyler.
Sorry I'm late. I'm having a hard time connecting.
One second. Paul's having a sound issue.
I can't hear you.
Try adjusting your output settings.
Can you hear me?
It's the gear icon.
Tyler, are you on hotel Wi-Fi?
Yeah, why?
Mais avec les imperfections et les aléas de la technologie.
Okay, everyone, I know some of you have to leave soon, but I just wanted to go over a couple of the queries before. Okay, excuse me. My wife's out of town this week.
Le résultat est assez drôle, mais j'en connais qui donneraient cher pour retrouver la douce quiétude d'une réunion en présentiel un vendredi sur les coups de 14 heures. Après un bon repas de service au restaurant.
Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin.
Ah, bah vous allez me mettre des paupiettes à l'ouverture et un plat de côte. Hein? Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au lieu des paupiettes. Hein? Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi. Hein?
Eh bien, il va falloir patienter, car la visioconférence s'est imposée dans la vie de l'entreprise en même temps que le télétravail. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va revenir sur le succès phénoménal des applications de visioconférence et pas seulement au travail.
Visioconférence de rédaction à France Télévisions.
C'est un peu partout en France aussi, on est en train de faire des recherches.
Préparation du JT par écran interposé.
On s'est intéressé un peu au covoiturage.
Les réunions à distance sont désormais la norme dans beaucoup d'entreprises.
Il n'y a toujours pas eu de troisième confinement en France et de nombreux salariés ont retrouvé le chemin des bureaux, si l'on en croit les chiffres récents de Malakoff-Ménéric. Pour autant, en 2020, la moyenne du nombre de jours télétravaillés par semaine a plus que doublé chez les salariés du privé, pour le plus grand bonheur des éditeurs de logiciels de visioconférence. Il y a quelques mois, je vous avais parlé dans la story du succès de Zoom Vidéo Communication, dont le cours de bourse avait quintuplé entre février et août 2020. L'entreprise vaut aujourd'hui plus de 125 milliards de dollars, plus de deux fois les valorisations d'Orange, de Free et d'Altice réunies. Une réussite qui a fait des envieux. Le secteur est depuis en pleine effervescence. Isabelle Lesniak, journaliste aux Echo Weekend, s'est intéressée dans un article pour l'hebdomadaire à la guerre de la visio. Je l'ai appelée au téléphone, mais sans la vidéo. Elle m'a raconté comment la visioconférence avait changé sa vie au travail.
En fait, comme beaucoup de télétravailleurs des services, je peux exercer mes tâches 100% à distance et donc la visio est devenue vraiment un pilier de mon travail. Je plaisante souvent en disant que Zoom était mon meilleur ami de 2020, mais c'est vrai que à la fois pour les rendez-vous et les interviews extérieures de travail et pour une ouverture sur le monde, c'est devenu un outil très important, quasi quotidien pour moi. Alors, il faut se souvenir un peu de où on était en mars 2020. Moi, je me souviens encore de ma première interview post-confinement. On était à trois personnes distantes, on ne savait pas trop comment se joindre, on avait bricolé un appel WhatsApp pour pouvoir se parler. Maintenant, c'est vrai, comme me le disait un consultant de Faber Novel, finalement, l'année 2020, pour moi comme pour tout le monde, ça a été un peu l'abandon du téléphone et le réflexe de s'envoyer des invitations par visio.
Et sans ces outils, l'impact de la pandémie sur l'activité des entreprises aurait été encore plus destructeur ?
C'est sûr, ça a été vraiment un pilier des fameux PCA, les plans de continuité d'activité, donc dans pas mal d'entreprises. Et c'est vrai que, en fait, si on s'imagine une pandémie il y a 5 ans ou il y a 10 ans, sans doute l'impact d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre aurait été terriblement destructeur. Quelqu'un me faisait remarquer que aussi il y a eu une démocratisation du prix des outils de la visio. Donc évidemment, maintenant, finalement, toutes les PME, les travailleurs indépendants peuvent s'offrir des outils de visio. Alors justement, ces consultants de Faber-Novel m'avaient fait un petit calcul par rapport à Webex qui me semblait particulièrement intéressant. En fait, en 2015, donc il n'y a pas si longtemps, les plans mensuels, il fallait compter entre 24 et 69 dollars pour bénéficier surtout finalement d'un service qui était de la voix. Alors qu'aujourd'hui, un forfait pro chez Webex avec du stockage dans le cloud coûte moins de 13 dollars. Donc c'est un outil qui a été très démocratisé et qui a permis de limiter l'impact de la pandémie.
Dans ce secteur de la visio, il y avait de grands acteurs bien installés. Hein. Vous aviez parlé de Webex qui appartient à Cisco. Il y avait aussi Google, Microsoft. Mais c'est un autre acteur qui est vraiment sorti gagnant de cette période. Un acteur jusqu'ici peu connu du grand public.
Oui, c'est ça. Alors, c'est évidemment, on parle de Zoom, dont la notoriété a vraiment explosé cette année auprès du grand public. Alors, finalement, nous, on l'a beaucoup découvert cette année, mais des professionnels, notamment des directeurs artistiques, des graphistes, l'utilisaient depuis pas mal de temps. Zoom, ça a été créé, en fait, en 2011 à San Jose, en Californie. Et c'est une assez belle histoire, en fait. Le PDG et fondateur, qui s'appelle Eric Yuan, est un ingénieur chinois jusqu'à 27 ans, il exerce ses activités, ses talents de codeur en Chine et il arrive donc aux États-Unis à l'âge de 27 ans, il parle pas anglais, il sait coder, donc il est pour son premier job employé chez Webex qui va être acheté par Cisco 10 ans plus tard, donc il fait carrière chez Cisco, il devient VP, Vice President, il a un gros salaire, mais finalement Webex comme outil ne lui convient pas tellement à titre personnel et pour le grand public et donc il part créer sa start-up qui Zoom et qui va devenir finalement le concurrent le plus sérieux pour Webex et pour Cisco. Donc finalement, à l'origine, cet outil qu'il crée vise plutôt un public professionnel. Tout d'abord sur la côte ouest, les entreprises de la Silicon Valley l'adoptent assez vite. En 2017-2018, c'est le tour des Européens, des sociétés européennes de s'y mettre. Le bureau français a été ouvert en juillet 2018. Donc les professionnels le connaissaient cet outil, l'appréciaient pour la plupart, mais finalement, c'est les particuliers qui n'en avait pas eu jusque-là l'usage et grâce à des plans marketing extrêmement bien faits, il y a eu vraiment une succession d'offres gratuites jusqu'aux fêtes de Noël. Pas mal de particuliers s'y sont mis, donc les derniers chiffres d'octobre qui mélangent professionnels et particuliers, c'était 300 000 participants journaliers, donc ça touche un peu tout le monde. Il y a eu aussi des people qui s'y sont mis, alors on se souvient que la reine Elisabeth II a fêté son 94e anniversaire avec le prince Philippe, mais sans sa famille, via Zoom. Et puis, il y a eu les célèbres entraînements des joueurs du Bayern de Munich pendant le premier confinement. C'était des entraînements de 1h45 obligatoires par Zoom.
Good morning, at Windsor.
Good morning. I'm very glad to be able to join you.
Can you see everybody? You should have 6 people on your screen.
Yes, well, I can see 4 anyway.
Un petit aperçu de la discussion entre la reine Elisabeth, 94 ans, et sa fille Anne, une vidéo publiée sur Twitter. Le cadrage est impeccable et ça permet même d'avoir une vue de l'intérieur du salon de la reine à Windsor. La reine qui continue d'utiliser la visioconférence pour des audiences, c'est Elisabeth 2.0. On ne compte plus les vidéos live de groupes et de chanteurs pendant le premier confinement. Comme ici, les musiciens de l'harmonie et l'écho du grenant de la bridoire en Savoie. On ne l'imagine pas, mais en ce moment, ils sont 20 à l'écran. Isabelle, Zoom a surtout réussi à conquérir les entreprises au-delà des étudiants ou des fans d'apéro virtuel ?
Oui, alors c'est très important parce que, bon, évidemment, il a eu une notoriété auprès du grand public, mais ça lui apporte pas beaucoup de sous puisque, évidemment, les plans jusqu'à 40 minutes, c'est gratuit, alors que finalement, le public des entreprises est autrement plus lucratif et donc c'est un public qui est choyé et qui est regardé de près par les investisseurs. Alors, finalement, ce public des entreprises payantes a augmenté de 485% en un an, donc c'est juste colossal. Il y a maintenant 433 000 entreprises payantes, donc de plus de 10 salariés qui utilisent Zoom. Et celles qui rapportent en fait plus de 100 000 dollars par an ont augmenté aussi de 136%. Donc finalement, c'est aussi ça qui fait le succès de Zoom, c'est qu'il peut s'ancrer son succès sur des clients payants très fidèles.
Oui, Zoom, hein, du coup, qui a caracolé en bourse, hein, j'en parlais tout à l'heure. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Zoom a tenu là où d'autres applis comme House Party ont disparu quasiment du paysage?
Alors, d'un côté, il y a un aspect technique, c'est-à-dire que techniquement, il avait bien anticipé la montée en charge de ses clients et des participants à ses visioconférences. Il y a eu des partenariats avec Oracle, il y a eu une augmentation de la capacité des serveurs, l'ajout de 4 data centers, mais ça, c'est qu'une petite partie de la chose. En fait, c'est parce que Zoom rend des services qui l'ont rendu indispensable. Il a une facilité d'usage qui fait que son utilisation a été plébiscitée, donc c'est très simple de s'y connecter, il y a une bonne qualité en haute définition pour le son et l'image, et puis une très faible utilisation de la bande passante, donc ça c'est très important évidemment pour tous ceux qui ont des problèmes de connectivité. Donc finalement, on s'est rendu compte que c'était un élément absolument indispensable des plans de visio, alors que certains autres acteurs, comme je pense à Discord, qui a été utilisé au début dans l'enseignement, alors c'était les étudiants qui ont finalement suggéré aux profs d'utiliser cet outil qui leur servait jusque-là pour faire du gaming, ont finalement disparu du paysage dès que les profs ont eu une alternative plus institutionnelle, plus établie à leur disposition.
J'en avais déjà parlé dans un épisode de La Story, hein, de ce succès de Zoom. On avait notamment évoqué les problèmes de sécurité, hein, de piratage en pleine conversation, où on voyait des hurluberlus, généralement jeunes, arriver et mettre un peu le bazar dans une réunion. Est-ce que Zoom a réglé ces problèmes?
Oui, alors pour ce qui est des Zoom bombing dont vous parliez, alors c'est vrai qu'on a tous en tête quelques images célèbres, notamment Boris Johnson qui se voit pirater une visio parce qu'il avait partagé son numéro d'identification de sa réunion sur son compte Twitter. Donc ça, c'était un problème qui n'était pas trop lié à l'outil, mais plutôt à l'usage qu'en ont fait des novices en la matière. C'est vrai que beaucoup de gens se sont montrés imprudents. Jusque-là, les clients de Zoom étaient surtout des entreprises, donc ils étaient quand même appuyés par la direction des services informatiques pour leur rappeler des règles de sécurité, des vademécum, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire pour ne pas se mettre en danger. Quand le grand public s'en est emparé, il y a eu des imprudences, donc ça c'était une chose, et puis il y a eu des problèmes de faille de sécurité, des problèmes de confidentialité d'accès aux data, donc effectivement, pendant le premier confinement, il y a beaucoup de services informatiques qui en interdisaient l'usage, chez Google, chez SpaceX, à la NASA, dans les grandes banques françaises. Bon, ça a été assez bien géré. En fait, dès avril, il y a eu une mise à jour qui réglait le problème de cette faille de sécurité. Et ensuite, il y a eu aussi une espèce de mea culpa fait par Zoom. En fait, pendant le premier confinement, Zoom mettait en avant que son service était chiffré de bout en bout. C'était pas vrai. Ça l'est devenu. Ils ont racheté une société new-yorkaise qui s'appelle Keybase, qui est spécialiste de ce secteur. Donc ça, c'était en mai. Et donc, depuis décembre, on peut avoir des visios chiffré de bout en bout. Alors bon, c'est peut-être pas très utile pour un usage quotidien, d'autant que ça enlève d'autres fonctionnalités, mais si on veut, on peut avoir cet outil donc chiffré en totalité. Pour les visios plus courantes, celles que on fait tous les jours, ils ont mis en place un système de mot de passe à 6 ou 7 chiffres, ou ce système de salle d'attente virtuelle où on patiente jusqu'à ce que l'organisateur de la réunion vous invite à entrer dans la visio, et donc ça a quand même pas mal réglé de problèmes de sécurité. Il y a des entreprises françaises, des grandes entreprises comme Sanofi qui étaient depuis assez longtemps les meilleurs ambassadeurs de Zoom et qui en ont mis une couche sur le fait que c'est sécurisé. Et dans l'argumentaire de la maison, c'est de dire que finalement, l'Assemblée nationale française, Benjamin Netanyahu utilise Zoom, donc c'est que ça doit être quand même assez béton en termes de sécurité.
Vidéo conférence, vidéo conférence. Les autres sont traumatisés d'avoir vu mon coloc passer le balai nu-cul.
On a vu le succès fulgurant de l'application Zoom en bourse, mais aussi en termes financiers. Au troisième trimestre de son exercice, le groupe a annoncé un bond de 367% de ses revenus, avec un bénéfice de près de 200 millions de dollars sur 3 mois. Un an plus tôt, l'entreprise avait péniblement affiché un profit de 2 millions. Sur 9 mois, il dépasse les 400 millions. Isabelle, en un an, Zoom est devenu une menace pour ses concurrents plus anciens ?
Oui, notamment pour Microsoft Teams. Donc Teams, ce n'est pas un concurrent très très ancien puisque cet outil va fêter ses 4 ans, mais c'est quand même déjà un outil qui était assez bien installé et qui finalement vivait avec une espèce de suprématie dans les entreprises, notamment les entreprises qui étaient nées avant Internet. Elles utilisaient Microsoft, donc elles sont passées à Teams assez naturellement. Et donc c'est sûr que voir arriver un trublion qui plaît par ses fonctionnalités, par sa souplesse d'utilisation, par les nombreuses vignettes qu'il proposait, par ses filtres, même si récemment l'histoire de l'avocat qui n'est pas un chat a un peu fait buzzer, tout ça évidemment ça a obligé Teams d'une part à se réinventer et d'autre part à en remettre une couche sur son développement de marketing. Et donc il y a eu un article de Business Insider en fait qui révélait sur la base de fuites de documents internes que les équipes commerciales de Teams avaient eu des primes pour tuer Zoom.
Tuer Zoom. Heureusement que le juge est occupé à régler les problèmes de filtre chat mignon sur Zoom.
Can you hear me, Judge?
I can hear you. I think it's a filter.
It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat.
Blague à part, Isabelle, Microsoft, hein, vous le disiez, regarde avec attention le succès de Zoom. Pourtant, Teams a aussi profité des confinements mondiaux et reste loin devant en termes d'utilisateurs.
Oui, les chiffres sont aussi très impressionnants pour Teams. Donc, c'était 44 millions d'utilisateurs actifs par jour avant le premier grand confinement, 115 millions aujourd'hui. Donc, évidemment, Teams a connu aussi un beau succès. C'est d'autant plus vrai que Teams fait partie de la suite Office 365, qui, elle aussi, a très, très bien performé cette année. Alors ça, c'est un argument, évidemment, qui est contesté par la concurrence, c'est-à-dire qu'on n'achète pas Teams à part, on est obligé de passer par la suite Office 365 pour avoir accès à Teams. Donc ça veut dire que si on veut avoir accès à Word, à Excel, à PowerPoint, à OneDrive, enfin à tous les outils qu'on utilise quotidiennement dans les entreprises, on a aussi Teams dans le package. Slack, qui est le champion des logiciels cloud pour les entreprises, a déposé une plainte à ce sujet cet été auprès de l'Union européenne en disant que Microsoft, finalement, devait être obligé de commercialiser Teams comme un produit à part et donc, finalement, de niveler les conditions de concurrence entre tous les acteurs. Alors, ça a peu de chances d'aboutir, mais ça éclaire quand même l'avantage concurrentiel indu qui est celui de Teams par rapport aux concurrents et qui explique aussi son succès pendant cette année.
Il y a un perdant quand même, si j'ai bien compris en lisant votre article dans les Echo Weekend, c'est Skype ?
Oui, alors Skype, c'était aussi un outil important du dispositif de Microsoft. Alors, on se souvient du rachat de Skype par Microsoft en 2011. Ça avait coûté 8,5 milliards de dollars. On disait donc de Skype que c'était vraiment la pépite du service de voix sur Internet. Alors, on se souvient que c'était des Estoniens qui avaient mis Skype au point. C'est vrai que c'était un outil très important, mais finalement, il permettait de faire un peu de téléphonie, enfin beaucoup de téléphonie, un peu de visio, du chat, mais pas grand-chose d'autre. Donc, assez naturellement, quand les entreprises ont eu besoin de partager des documents pour permettre une collaboration à distance, de gérer tous les outils en fait offerts par Microsoft, elles sont passées donc assez naturellement de Skype à Teams.
On sent bien que ces applis, en tout cas, sont parties pour rester, même après la pandémie, même quand on sera retourné au bureau. Et ce que vous racontez aussi, Isabelle, c'est que les grandes manœuvres ont commencé. Il y a du rachat dans l'air ?
Oui, c'est ça. Il y a une consolidation qui est en cours. Bon, c'est d'autant plus intéressant à observer que finalement, la messe n'est pas dite. Il y a eu des positions qui ont été prises durant l'année, qui ont été plus ou moins validées par les services informatiques. Donc, du coup, maintenant, il y a des situations qui sont plus figées, sans doute, qu'elles ne l'étaient au début de 2020. Mais il y a sans doute de la place pour plusieurs acteurs. Et donc, les grandes manœuvres sont tout à fait commencées pour essayer de croquer un bout de ce marché de la visio et des outils à distance. Alors, il y a une opération qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a marqué les esprits. C'était début décembre, en fait, Salesforce qui a racheté Slack pour 27,7 milliards de dollars. On n'avait jamais dépensé autant, finalement, dans le secteur de la tech. Même quand LinkedIn a été racheté par Microsoft en 2016, c'était moins. Alors, ça a beaucoup marqué les esprits parce que, finalement, c'était aussi un non-GAFA. Salesforce n'est pas Google, Amazon, Facebook ni Apple qui se mettaient sur le marché Et il acceptait de finalement de mettre sur la table 12% de sa capitalisation boursière pour racheter Slack. C'était un des rachats de l'année, mais ce n'est pas du tout le seul. Il y a aussi Verizon, le grand opérateur télécom américain, qui a racheté une plateforme qui s'appelle Blue Jeans, et Cisco pour se mettre à niveau et pour essayer d'innover son vieil outil WebEx, a fait pas mal de rachats. Donc il y a eu un rachat d'une entreprise qui s'appelle Babel Labs, qui permet d'améliorer le son de WebEx à terme. Une autre entreprise qui s'appelle Slido, c'est en fait pour rendre les vidéoconférences moins ennuyeuses. Donc Slido permet des quiz, des nuages de mots, etc. Donc on voit que finalement on est en train de préparer l'acte 2 de la vidéo.
Maître Corbeau, sur un arbre, perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage.
À côté de ces gros participants que sont Zoom, Meet, WebEx ou encore Teams, on voit aussi émerger de nombreux jeunes protagonistes des startups attirés par ce fromage très appétissant. Alors là, on parle surtout de groupes américains. Il y a des acteurs français qui émergent ?
On est attaché à la souveraineté européenne ou même française, on peut tout à fait consommer français en matière de visio. Il y a des alternatives sécurisées en plus, donc notamment une qui s'appelle Livestorm. Alors Livestorm, moi j'en ai entendu parler parce qu'on a récemment publié notre 8e classement des champions de la croissance et Livestorm était 8e, donc c'est une entreprise à très forte croissance. C'est une entreprise toute jeune de la région parisienne, elle date de 2016. C'était un projet d'étude en fait, de fin d'études de 4 étudiants de l'éthique de Montreuil qui ont décidé donc de s'attaquer au marché de Zoom, de Teams, avec une particularité, c'est que la vidéo est accessible depuis le navigateur, c'est-à-dire qu'on ne télécharge pas, mais on tape dans le navigateur comme si on faisait une recherche Google. Ils disent que c'est du coup beaucoup plus sécurisé, en tout cas ça plaît aux startups, aux fonds de venture capital, enfin c'est vraiment une émanation de la French Tech. Et puis il y a d'autres acteurs aussi comme Tixeo à Montpellier qui est très sécurisé, un autre acteur qui s'appelle Linagora ou encore Citadel. Citadel, c'est un produit de Thales en fait qui devait aussi être très sécurisé. Alors le produit a un peu de mal à prendre, mais en tout cas il existe et il plaît à des clients dans la défense, dans l'armement, enfin dans tous les secteurs qui ont besoin d'une sécurisation poussée.
Ah, il y en a marre. Des réunions, des comités, des meetings à tout bout de champ. Alors ça suffit les réunionnites, hein. Ça suffit.
Alors l'avenir dira si on reviendra au monde d'avant, au bureau, alors qu'on le sait, les entreprises ne sont pas épargnées par les réunionnites aiguës. Mais pour convaincre les utilisateurs de rester et de payer, il faudra peut-être aller plus loin que de proposer de superbes décors façon Minecraft ou plage déserte au soleil. Les applis vont mettre l'accent sur l'innovation, Isabelle ?
Oui, alors c'est vrai pour les vieux acteurs qui se sont un peu copiés. Bon, l'année 2020, à dire vrai, n'a pas été une grande année d'innovation parce que tous étaient préoccupés pour finalement maintenir leur service face à la montée en charge et la clientèle et dans des circonstances de confinement où tout le monde se connectait à distance. Mais il y a quand même quelques acteurs qui émergent et qui proposent des services parfois assez bluffants. Donc j'ai fait connaissance à l'occasion de cette enquête avec les fondateurs de Lavitre. C'est une société française qui propose en fait une sorte de télétransportation des équipes. C'est-à-dire que même si on est à distance, on se voit via un écran tactile qui a taille humaine, donc en pied. On toque à la porte comme si on rentrait dans une réunion et là on peut de part et d'autre de cette vitre parler, s'échanger des documents, même co-concevoir finalement des objets en 3D. C'est tout à fait bluffant. Alors c'était une solution qui avait au départ été bricolée par des gens qui étaient dans une agence digitale et qui avaient besoin de créer des produits à distance, mais qui maintenant est tout à fait commerciale et développée. Elle a séduit des entreprises comme Accenture, Engie, Kering. Bon, pour l'instant, il y a 300 vitres installées dans le monde, donc c'est qu'un début. Mais un des clients, et c'est pas anodin, c'est Microsoft, en fait, qui a fait appel à la vitre pour finalement permettre des brainstorming de ces entreprises à distance. Et ça, c'est quand même un sacré hommage à la capacité d'innovation des nouveaux acteurs.
Ça veut dire, Isabelle, que c'est fini, les vidéoconférences en caleçon ?
Ah oui, ça, c'est forcé qu'il va falloir maintenant mettre aussi un bas parce que sinon, ça ne passera pas à l'épreuve de la vitre.
Tout nu et tout bronzé, eh bien, on est faux quand revient l'été.
va falloir se rhabiller pour les conférences de rédaction des Échos. J'ai un peu perdu l'habitude. Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos Week-end, pour cet aperçu de la guerre de la visio. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.